Laudetur Jesus Christus.
Le génocide des Yézidis, reconnu pour la première fois par la justice, une décision allemande condamne un membre de l'organisation de l'État islamique à perpétuité pour génocide. Nous retrouverons notre correspondante à Berlin. Puis direction la Russie. Vladimir Poutine hausse le ton envers les Occidentaux. L'Ukraine constitue une ligne rouge pour le Kremlin et Moscou ne tolérera pas l'adhésion de son voisin à l'Union européenne. Enfin, dans notre dossier, nous revenons sur l'abrogation des lois agricoles en Inde. Un soulagement pour les agriculteurs qui se mobilisaient depuis de longs mois. Nous en parlons ce soir avec le professeur Frédéric Landy de l'Institut français de Pondichéry.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. C'est une première mondiale. La justice allemande a condamné un membre de l'organisation de l'État islamique à perpétuité pour génocide à l'encontre de la minorité religieuse yazidi, la minorité la plus persécutée par les djihadistes de Daesh, notamment dans le nord-ouest de l'Irak. Ce verdict est crucial pour la reconnaissance des exactions commises contre cette communauté kurdophone. Il a été rendu par la Haute Cour régionale de Francfort-sur-le-Main. À Berlin, les précisions de Delphine Nerbollier.
À l'annonce du verdict, Taha al-Jamaili s'est effondré et la séance a dû être suspendue. Quelques secondes plus tôt, le président de la cour avait annoncé le verdict. Cet Irakien de 29 ans est condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre et génocide à l'encontre de la minorité yézidi, une minorité religieuse mise en esclavage par l'organisation État islamique. Aujourd'hui encore, 2800 yézidis sont toujours portés disparus. Cette condamnation est une première au monde. Les faits remontent à l'été 2015. À l'époque, Taha al-Jamaili se trouve à Fallujah. Cet homme de 24 ans est membre de l'organisation État islamique et il possède plusieurs esclaves yézidis, dont une petite fille de 5 ans. Un jour, il attache la fillette au barreau d'une fenêtre dans la cour, car celle-ci a mouillé son lit. Il la laissera mourir de soif en plein soleil, dans une chaleur étouffante. Si le procès se tient en Allemagne, c'est parce que ce pays a adapté sa législation pour pouvoir poursuivre des personnes impliquées dans des crimes de guerre commis à l'étranger. Taha al-Jamaili a pu y être expatrié en 2019. Il avait déposé une demande d'asile en Grèce sous son vrai nom. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
La prix Nobel de la paix en 2018, la yézidi Nadia Mourad, a salué cette décision de la justice allemande. C'est une victoire pour toute la communauté, estime-t-elle. En France, la campagne pour l'élection présidentielle s'intensifie. Ce matin, le polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, a dévoilé sa candidature. Et ce soir, les candidats du parti de droite, les Républicains, dévoileront leur programme lors d'un débat. Le président français, Emmanuel Macron, quant à lui, n'a toujours pas officiellement fait part de ses intentions. Un tragique accident en Azerbaïdjan. Un hélicoptère militaire s'est écrasé ce matin dans l'est du pays. 14 personnes sont mortes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Si la Russie dément depuis plusieurs jours toute velléité d'envahir l'Ukraine, le sort du pays constitue néanmoins une ligne rouge pour le Kremlin. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine cet après-midi dans le cadre d'un forum d'investissement évoquant la présence de troupes russes aux frontières de l'Ukraine. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin.
Raccommoder les liens avec Kiev, c'est l'objectif affiché par Vladimir Poutine. Et pour le président russe, si les deux pays s'efforcent sincèrement d'y parvenir, alors personne ne se sentira menacé. Excluant par ailleurs toute intervention armée, le président russe a nuancé les propos plus directs de son ministre des Affaires étrangères. S'agissant des exercices militaires menés par les Occidentaux en mer Noire et en Europe de l'Est, comme de la volonté affichée par Kiev d'acheter de nouveaux armements américains, Sergueï Lavrov avait assuré que Moscou prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la Russie dans le cas où l'Occident encouragerait ou se montrerait incapable de dissuader Kiev de se lancer dans une aventure militaire. On le comprend mieux, à n'en pas douter, l'Ukraine constitue une ligne rouge. Moscou ne tolérera pas l'adhésion de son voisin à l'Union européenne et encore moins son intégration dans l'Alliance atlantique. Une façon pour la Russie de signifier aux Occidentaux qu'elle reste concernée au premier chef par ce qui se passe dans son étranger proche, ou plutôt la sphère d'influence que lui a conféré l'effondrement de l'Union soviétique, dont on s'apprête à célébrer le 30e anniversaire. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Nouvelle journée de mobilisation tendue au Soudan. Les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants qui réclament un transfert du pouvoir au seul civil. Il y a une dizaine de jours, le premier ministre civil Abdallah Hamdok retrouvait son poste après le putsch du 25 octobre. Mais l'armée et le général Bourhan gardent officiellement le pouvoir. Et cela au moins jusqu'aux élections promises. Elles devraient se tenir en juillet 2023. Deux travailleurs humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, ont été enlevés ce mardi dans le Nord Kivu, en RDC. Ils se rendaient à Goma lorsque leur convoi a été intercepté par des hommes armés. Aucun coup de feu n'a été tiré et quatre autres personnes du convoi ont été relâchées, saines et sauves. Avant de passer à notre dossier, l'intention de prière du pape François pour le mois de décembre a été dévoilée. Le pape invite à prier pour les catéchistes. Il les encourage à annoncer l'évangile avec des langages et des chemins nouveaux. Une vidéo à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Dans notre dossier ce soir, nous prenons la direction de l'Inde. Le 19 novembre dernier, le premier ministre indien, Narendra Modi, avait pris tout le monde par surprise en annonçant l'abrogation des lois agricoles. Une décision qui a provoqué le soulagement chez des centaines de milliers d'agriculteurs à travers l'Inde. Ces lois ont officiellement été abrogées hier par le Parlement indien. Adoptées sans concertation par le Parlement en septembre 2020, elles avaient provoqué dans le pays les plus importantes manifestations depuis l'indépendance de l'Inde. En 1947, la nouvelle législation voulue par le gouvernement Modi libéralisait un peu plus le secteur agricole. Mais cette abrogation répond avant tout à des raisons électoralistes. C'est ce que nous rappelle le géographe Frédéric Landy de l'Institut français de Pondichéry.
Évidemment, il y a l'usure de la lutte, hein, puisque ces manifestations ont commencé il y a un an et qu'elles s'étaient intensifiées pendant l'hiver dernier. Donc les agriculteurs n'ont pas cédé, les manifestants n'ont pas cédé, mais il y a aussi et surtout, je crois, les perspectives électorales à venir, étant donné que ce ne sont pas tellement les élections générales qui auront lieu en 2024, mais surtout les élections régionales au niveau d'États cruciaux qui auront lieu en février prochain, qui s'approchent. Et il aurait été extrêmement difficile pour le BJP, le parti au pouvoir, de gagner ces élections si ces États qui sont au premier plan des révoltes avaient pu avoir leurs élections alors même que les blocages des agriculteurs continuaient.
Ces États, ce sont l'Uttar Pradesh et le Punjab notamment, qui sont parmi les États les plus peuplés de l'Inde. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que représentent justement ces États et notamment c'est une forte population d'agriculteurs justement où les manifestations étaient très très fortes.
Les agriculteurs, il y en a dans tous les États de l'Inde, donc ça c'est pas la spécificité tellement de ces États, mais d'une part, alors ils sont autour de Delhi, autour de la capitale, donc vous voyez que politiquement ils sont extrêmement visibles. Et puis par ailleurs, le Punjab, l'Haryana à côté, et puis l'ouest de l'Uttar Pradesh représentent les véritable bastion de la révolution verte, c'est-à-dire de ces transformations de l'agriculture vers plus d'intensification, vers des rendements agricoles supérieurs grâce à des semences améliorées, grâce à de l'irrigation, grâce à des engrais chimiques qui a pris naissance à la fin des années 60. Et on a donc le cœur de l'agriculture qu'on appellerait conventionnelle en France, de l'agriculture industrielle, qui connaît la même crise qu'une bonne partie des espaces agricoles français et européens, avec des revenus agricoles qui n'augmentent pas et qui sont même en chute libre depuis au moins deux décennies.
Aujourd'hui, où en est-on maintenant à la lumière de cette abrogation prévue? Est-ce qu'il faut repenser une grande réforme agricole? Sur quelle piste pourrait-elle s'établir selon vous?
Oui, c'est sûr que le statu quo ne satisfait personne. Donc il faudrait changer. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel sens, étant donné qu'il y a deux directions possibles. La première, c'est de poursuivre la voie de la révolution verte, essayer de renforcer la productivité
de la terre et surtout des agriculteurs. L'autre approche, elle est déjà à un niveau étatique, c'est assez prodigieux, en Andhra Pradesh, un état du sud de l'Inde, où officiellement, eh bien, tous les agriculteurs doivent progressivement, mais dans un intervalle de temps très rapproché, suivre des méthodes d'agroécologie.
Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, le géographe Frédéric Landy, chercheur associé à l'Institut français de Pondichéry, était ce soir notre invité. Le prochain retour de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.